J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujimaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine à tous en compagnie de Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Un camp de pêche au bord du lac Albert connaît de fortes inondations. C'est dans la nuit du jeudi à vendredi que Tadba s'est retrouvé dans l'eau. Ceci 4 jours après les inondations enregistrées à Djo et Gbi dans le territoire de Djougou en province orientale. Des sources locales parlent de plus de 100 maisons emportées par la montée des eaux du lac Albert. Les autorités locales indiquent que les sinistrés de ces inondations sont sans assistance. Des cas d'inondations, incendies, glissements des terrains et autres catastrophes naturelles sont souvent enregistrés à travers le pays et dans la plupart des cas, des problèmes se posent dans la prise en charge de sinistrés. Que pensez-vous de la gestion des catastrophes naturelles dans votre milieu? Nous allons en parler tout à l'heure avec Duxé Salomo, secrétaire général de la Croix-Rouge du Congo. Parole aux auditeurs, dans une réalisation de Titi Mputu et Lydie Keshala et la mise en onde assurée par Héritier Sigakala, Pierrot et la Meji au micro pour la présentation sous la supervision de Nico Ngaga. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission et nous faire votre témoignage par rapport à la gestion des catastrophes naturelles dans votre milieu, que ce soit les inondations dues aux fortes pluies, tout comme les débordements du lac Albert qui fait l'objet de notre introduction dans cette émission, les incendies, le feu de brousse, tout cela arrive, on se retrouve dans une situation où des habitations sont envahies par de l'eau, il y a glissement des terrains, on se retrouve aussi couvert par la boue, des fois, ce sont des incendies qui se déclarent. Tous ces problèmes se posent dans la société congolaise, ça et là, à travers le pays et dans votre milieu. Qu'est-ce qui se fait souvent pour faire face à ces situations? Comment se passent les prises en charge, n'est-ce pas, des sinistrés? Nous faisons le point avec vous. Nous aurons le secrétaire général de la Croix-Rouge du Congo dans cette émission avec qui nous allons voir qu'est-ce qui se fait souvent sur le terrain, qu'est-ce qui doit être fait, quelles sont aussi les procédures à observer quand on fait face à tous ces problèmes de catastrophes naturelles. Nous avons un direct Espoir qui nous appelle de Kananga au Kasaï occidental. Espoir, bonjour.
Bonjour.
Et Espoir, s'il arrive des fois que là où vous êtes, vous puissiez connaître des cas de catastrophes naturelles, dites-nous comment se passe la prise en charge.
Ah oui. Avant de répondre à la question, je voulais demander d'abord au secrétaire, bien qu'il n'est pas encore présent là au studio, vraiment, la République démocratique du Congo, ce n'est pas la capitale, hein. Il semble que tous ces services sont offerts par, à la population seulement là au niveau de Kinshasa, mais là où nous habitons, des fois nous ne voyons pas ces services réellement comme il faut. C'est pourquoi je voulais demander d'abord, qu'est-ce que l'invité peut nous dire pour l'offre de ces services partout dans la RDC, étant donné que dans les villages où moi je vis, il n'y en a presque pas. Et même les villes de Croix-Rouge n'existent presque pas. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment aussi bénéficier de ces services? C'était ça la préoccupation vraiment.
Merci. Alors? Beaucoup. Oui, Espoir, merci. Merci beaucoup de nous avoir appelé des Kananga. Je sais que quand vous parlez de votre village, vous parlez de Demba, n'est-ce pas, dans les territoires de Demba au Kasaï occidental, vous dites qu'il y a, vous ne voyez pas les services de prise en charge en cas de catastrophe et vous posez la question au secrétaire général de savoir qu'est-ce qui est fait au niveau pour avoir service en province, mais vous ne voyez pas aussi la Croix-Rouge sur place à Demba au Kasaï occidental. Je signale à nos auditeurs que notre invité vient de se faire son entrée dans ce studio. Alors? Espoir, merci beaucoup de nous nous avoir appelé d'aider Mbao Kassouj Natal. Monsieur Doux Salomo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Nous partageons ensemble avec les auditeurs la prise en charge des interventions en cas de catastrophe naturelle. On a introduit l'émission avec la situation des villages des pêcheurs hein, en province orientale. Il y a 4 jours, dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a le village de Takba qui s'est retrouvé dans l'eau. C'est la montée des eaux du lac
Azungu.
Voilà, oui. La montée de l'eau du lac Albert, plus de 100 maisons emportées. Cela est arrivé aussi à Djo, Egbi. Des cas comme ça arrivent hein, après les pluies à travers le pays, mais des fois aussi des incendies, tous ces problèmes. Nous faisons le point avec les auditeurs. Comment évaluer les niveaux des interventions en cas de catastrophe naturelle, mais vous aussi à votre niveau, qu'est-ce que vous faites, le degré de collaboration avec le pouvoir public, avec les victimes, les sinistrés, voire même la population locale. Voilà autant de questions qui vont s'étendre hein, tout au long de cette émission. Mais le temps d'abord d'écouter quelques auditeurs, nous allons revenir à vous. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental, bonjour. Maître Adrien, bonjour.
Bonjour, monsieur l'invité.
Bonjour. Vous avez suivi, nous faisons le point sur la prise en charge ou l'intervention en cas de catastrophes naturelles. Est-ce que vous avez déjà connu des cas comme ça à Kananga?
Oui, j'ai déjà connu ça, pas à Kananga, mais dans la province du Kassai Occidental, précisément dans le territoire d'Ilebo. Vous savez que c'est un territoire pratiquement riverain, parce que la rivière Kassai loge vraiment ce territoire. Il y a la rivière Lutuadi, pour ne pas parler aussi de la rivière Sankuru. Mais ce qui m'a toujours tiqué, Pierrot, c'est que apparemment ces événements-là surprennent les autorités, et les autorités ne savent pas comment est-ce qu'il faut prévenir. Ils savent que la saison des pluies commence à partir du mois de septembre pour notre province. Ils savent que lorsque l'eau pousse dans ces rivières que je venais de citer, il y a toujours des débordements, mais les autorités locales, bien évidemment, ne savent pas comment donc agir. Maintenant, en cas de catastrophe, lorsque nous venons maintenant sur terrain, c'est un abandon total. Donc, c'est ce que moi j'ai toujours qualifié ça d'une abstention, bien d'une donc de la non-assistance. Et je me suis même donné le luxe de causer avec les responsables, parce que il y a la Croix-Rouge, il y a certains services. Et lorsque je pose la question, et ces services-là me disent que les autorités nationales ne font rien, donc il n'y a aucun sou, donc aucun argent pour subvenir en cas de nécessité, comme ça s'est toujours passé à Ilebo. Il faut maintenant que ces familles-là se cotisent, se battent à gauche, à droite, les églises leur viennent à rescousse. Voilà un peu là où moi je stigmatise. Les autorités doivent être prévoyantes, parce que gouverner, c'est prévoir, comme on l'a toujours dit. Il ne faut pas toujours attendre que les événements viennent vous surprendre et pour chercher maintenant comment vous défendre. C'est pour cela que j'aimerais poser la question à notre invité. Mm-hmm. Pourquoi ils négligent toujours les services qui sont à l'intérieur? Ils n'ont aucun fonds de fonctionnement. Mais en cas de catastrophe, comme je viens de l'invoquer, comment est-ce que ces services-là pourront maintenant s'en prendre?
Merci beaucoup, Maître Adrien. Nous allons, Stéphane, vous gardez la ligne, on va revenir à vous. Vous êtes à Kamina. Nous allons accorder la parole à notre invité, parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir quelques petites précisions par rapport à tous ces termes utilisés. Et puis, on va revenir aux préoccupations des auditeurs. Monsieur Doux Salomo, vous avez suivi les uns et les autres. Mais avant de pouvoir dire quelque chose à propos de ce que les auditeurs ont posé comme problème dans cette émission, revenons d'abord au concept qui peut permettre à ce que nous puissions nous comprendre avec les auditeurs pour évoluer. C'est quoi juste une catastrophe naturelle?
Merci bien, monsieur le journaliste. Une catastrophe naturelle, bon, je ne voudrais pas m'étendre dans de définitions beaucoup plus techniques.
Ce qui est plus facile
pour que tout le monde puisse comprendre. Mm-hmm. Une catastrophe, c'est un événement qui survient à l'improviste. Ouais. C'est quand il y a un événement malheureux, douloureux, qui survient à l'improviste, en bref, c'est ce qu'on appelle catastrophe. Mmh. Et maintenant, il y a différentes sortes de catastrophes. Il y a les catastrophes naturelles, il y a des catastrophes épidémiologiques, il y a des catastrophes technologiques, ainsi de suite. Mmh. Et en bref, c'est un événement qu'on ne pouvait pas s'attendre, mais qui survient de manière improvisée comme ça.
Et au niveau de la Croix-Rouge, par exemple, avez-vous une branche qui s'occupe uniquement de la gestion des catastrophes naturelles?
Oui, je dois vous rappeler que la Croix-Rouge a commencé avec justement avec les catastrophes naturelles. S'il faut qu'on remonte à son historicité, la Croix-Rouge est née, bien sûr, sur le champ de bataille. Ouais. C'est sur le bas de ça que la Croix-Rouge est née. Et aujourd'hui, c'est une coordination plus importante, hein, parmi les coordinations les plus importantes dans notre société. National. Quand je parle de l'association nationale, c'est-à-dire la Croix-Rouge de mon pays, la Croix de la RDC, nous avons tout un département, hein, toute une coordination, je voulais dire, de gestion des catastrophes. Et comme j'ai entendu par-ci par-là, les gens qui disent que non,
oui, il y a Demba et il y a Kananga, ils disent qu'ils ne voient pas la présence vraiment de la Croix-Rouge dans leur milieu, ou soit s'ils sont là, ils ne sont pas assez soutenus, sans pas qu'il y a cette présence et un soutien vraiment qui peut leur permettre de faire face en cas de besoin.
Exact. Je dois rappeler à nos auditeurs que la Croix-Rouge est auxiliaire du pouvoir public. En principe, la Croix-Rouge devrait bénéficier de soutien tant matériel que financier du pouvoir public. Et aujourd'hui, bon, la Croix-Rouge ne bénéficie pas de grand-chose. C'est pourquoi vous voyez comment nous ne pouvons pas être très efficace sur le plan matériel, sur le plan financier, si nous ne faisons pas recours à nos partenaires du mouvement. Je parle de les partenaires du mouvement, je vois le Comité international de la Croix-Rouge, je vois la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, je vois les sociétés nationales sœurs. Ici, par exemple, nous bénéficions du soutien, non le moindre, de la Croix-Rouge de Belgique, de la Croix-Rouge espagnole, de la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge italienne, bien sûr, il y a aussi les croissants rouges iraniens. Et c'est intéressant. Alors, si nous ne bénéficions pas des appuis de ces partenaires, parfois notre intervention sur le terrain s'avère inefficace.
Mais des fois, quand vous êtes sur le terrain, est-il au niveau du pouvoir public aussi une structure avec laquelle vous vous retrouvez dans ce travail de prise en charge s'il y a déjà un problème qui est survenu quelque part?
D'accord. Dès qu'il y a, par exemple, une catastrophe, quelque part, tout en sachant que la Croix-Rouge est là, mais tout le monde sait aussi que le pouvoir public est là. Il y a des ministères qui s'occupent effectivement de ce genre de choses. Et la première chose à faire, c'est de savoir quel est le ministère qui doit s'en occuper. Et habituellement, comme nous sommes en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales, le ministère, et je dois rappeler au public, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Santé. Mais c'est pourquoi nous nous retrouvons souvent sur, quand il s'agit de catastrophes épidémiologiques, prenons le cas d'Ebola qui était à Isiro, il y a des cas de choléra. Ça, nous travaillons efficacement, étroitement avec le ministère de la Santé. Mais quand il s'agit d'autres cas...
Des inondations, par exemple.
Là, nous sommes en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Voilà. Donc, alors, contrairement à ce que j'ai entendu, que nous ne sommes pas partout, je dois vous avouer que la Croix-Rouge, c'est l'unique institution, un, qui a des volontaires, et ces volontaires sont disséminés à travers la République. De Zongo, disons de Aro, à Mwanda, de Kasumbalesa à Libenge, dès que vous arrivez quelque part, vous ne pouvez pas manquer un seul volontaire de la Croix-Rouge. Donc, ils sont là. Mais sauf que, comme je vous l'ai dit,
il y a des problèmes de moyens.
Il y a des problèmes de moyens pour que ces volontaires sécuristes qui sont réellement volontaires et qui ont vraiment la technique dans le main, qu'ils puissent intervenir. Mais ils interviennent par rapport aux moyens qu'ils ont, aux moyens disponibles. Mais vous vous rendez compte, par exemple, si quelqu'un qui une catastrophe survient, comme on l'a dit, à Dungu, aujourd'hui, ce n'est pas dit que nous sommes absents. Et on ne peut pas intervenir sans connaître, sans évaluer les besoins de la population.
Mm-hmm.
Bien sûr, les gens peuvent dire que, ok, vous intervenez en retard. Non, on n'intervient pas en retard. On intervient pour que on arrive pour que cette intervention soit efficace. On ne peut pas intervenir pour saupoudrer nos moyens.
Mm-hmm.
Non, on commence toujours par une évaluation. Bien sûr, bon, le premier jour, c'est une évaluation très rapide. Hein. Ce n'est pas cette évaluation rapide qui peut nous déterminer tous les besoins de la population.
Mm-hmm.
Cette évaluation rapide nous montre juste comment il faut déterminer les besoins les plus immédiats de la population. Je vous dis, par exemple, les besoins les plus immédiats, sans entrer dans le détail, il y a le besoin d'eau.
Mmh.
Il y a les besoins d'abri, parce que si la population est à la belle étoile, il faut l'abriter, il faut que cette population ait de quoi manger.
Mmh.
Donc ce sont les besoins primaires que nous évaluons dans un premier temps. Ce n'est qu'après, quand nous allons faire une évaluation secondaire ou détaillée, que maintenant nous allons savoir réellement les besoins de la population pour que interventions soient efficaces.
Mmh.
Et là, nous ne le faisons pas seuls. On ne peut pas le faire seul, on ne peut pas arriver à atténuer une catastrophe seul. Parce que je vous dis, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Nous arrivons à voir comment le pouvoir public intervient. Alors, quels sont les autres intervenants dans l'humanitaire qui peuvent intervenir? Parce que cela nous éviterait, bien sûr, de faire la même chose.
Mmh.
Si, par exemple, nous pouvons intervenir pour donner de l'eau à la population, il ne faudrait pas que une autre organisation arrive aussi à donner de l'eau à la population. Sinon, bon, les autres secteurs restent sans intervention, sans être soulagés.
Mmh.
Voilà.
Mmh. Nous allons écouter Stéphane qui est à Kamina, Michel est à Matadi dans la province de Bakongo. Stéphane, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez déjà connu une situation de catastrophe naturelle à Kamina, lesquelles par exemple?
Localement, c'est quand il pleut, il y a des fois des tempêtes qui renversent des maisons et des bâtiments solaires.
Mm-hmm.
L'État intervient d'une façon ou d'une autre, sauf qu'il faut d'abord inventorier et qu'on dénombre le nombre de maisons déjà écoulées ou les écoles afin de prendre des dispositions voulues. C'est l'entretemps.
Mm-hmm.
Moi, j'ai un cas de suggestion à propos de la population congolaise. Le monde s'entête. Des fois, il y a des terrains qui ne sont pas vraiment favorables à la construction. On y va comme ça avec beaucoup de violence, on fait ce qu'on voudrait réaliser. Alors que des fois, le service de cadastre et d'urbanisme signale qu'il y a un danger à ce niveau-là. Le monde ne comprend pas.
Mm-hmm.
Et quand on fait appel à l'État aussi, très haut, l'État ne fait rien, mais c'est l'État qui a construit des maisons à tout le monde. Ouais, c'est ça, du moins, le point que je voudrais soumettre à notre invité du jour.
Ok. Merci beaucoup, oui. Merci, Stéphane. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Vous dites qu'à Kamina, à chaque fois quand il y a des fortes pluies, il y a des problèmes, des gens qui se retrouvent sans abri. Hein, et là, les pouvoirs publics, c'est que vous avez dit, l'État agit quand même. On intervient en identifiant d'abord les besoins et puis pour secourir ceux qui peuvent être secourus. Mais vous dites, vous chargez la population. Il y a des choses que les gens qui arrivent parce que les gens ont fait des mauvais choix. Par exemple, quand on va lotir, on va occuper un site inapproprié. Et quand il y a par exemple inondation ou soit glissement des terrains, et là c'est un problème, les gens eux-mêmes qui font de mauvais choix par rapport aux endroits où ils vont habiter. Et nous allons tout de suite après les auditeurs voir avec notre invité s'il y a aussi un département de prévention qui peut prévenir toutes ces choses, par exemple comme des constructions dans les sites inappropriés. Il est temps d'écouter Michel qui est à Matadi. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Michel. Nous faisons le point sur la gestion. Michel, nous faisons le point sur la gestion de catastrophes naturelles. Est-ce qu'il y a déjà eu une situation comme ça dans le Bas-Congo? Ça peut être un incendie, ça peut être des inondations.
Oui, à Madongo.
Et qu'est-ce qui a été
aujourd'hui, Madongo est devenu un centre des érosions.
Mm-hmm.
Et les érosions qui ont été laissées par les Mobutu et qui n'ont pas été prises en compte, qui ont été négligées, et aujourd'hui, ça pose des problèmes. À la lire où va ces érosions, il y a maintenant la difficulté pour arrêter ces érosions. Le problème est que, sous notre pied, même si les catastrophes naturelles pouvaient arriver, mais il y a des études qui sont faites avant pour empêcher que ces érosions, même si ça va détruire, mais que cela ne puisse pas faire disparaître tout un contrée ou bien une grande partie de la population. Le problème dans notre pays, d'ailleurs, à Madang, il y a différents gouvernements qui sont passés. Ils ont vu les dangers. Mais jusqu'aujourd'hui, rien ne s'est fait. Mais nous devons voir aussi les causes. Parce qu'il y a d'autres catastrophes qui, leurs sources, peuvent être loin, mais qui peuvent venir là où vous êtes. Le problème, parce que nous n'arrangeons pas l'environnement. Nous polluons l'environnement. Et aujourd'hui, on peut se poser la question. Est-ce que c'est seulement les peuples congolais qui détruisent l'environnement? Moi, je dis que non. Et ceux qui détruisent aujourd'hui l'environnement congolais, ce sont des gens, ce sont les expatriés, ceux qui sont ailleurs. Peut-être, mais de couper des arbres et ne faire pas que ces arbres qui sont en train de couper peuvent avoir des retombées, des conséquences néfastes dans la vie des Congolais. Voyons voir aujourd'hui comment les Chinois coupent les arbres dans la République démocratique du Congo, et illégalement aussi. Et même s'ils le coupent, ça ne profite pas, et lorsqu'il y a l'érosion, ce n'est pas aux Chinois que nous devons nous en prendre. C'est les Congolais qui subissent. Moi, je crois qu'il faut attaquer les causes. Nous détruisons l'environnement, nous détruisons.
Mmh.
Et tout ce que les Congolais, c'est l'autre qui vient les avoir dans notre pays. Moi, je crois que l'État congolais doit prendre ses responsabilités. Parce que chaque situation, le mal du Congo est profond. Est profond. Parce que tout ce que nous disons, ça c'est la chanson, c'est si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est Mobutu. Mais Mobutu est parti. Mobutu est parti. Quel est ce pays que nous avons commencé? Nous faisons reconstruire. Reconstruire. Quand est-ce que nous allons commencer à construire? N'oublions pas que l'Angola est passé aussi par la guerre, comme nous. Et c'était plus qu'une guerre que c'était le Congo en train de vivre. Mais l'Angola, avec la vision qu'avaient les autorités, aujourd'hui l'Angola n'est pas une. C'est un pays où tout va bien. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir quand même?
Merci, merci beaucoup. Merci Michel. Vous dites qu'il y a Manzangou qui est menacé par des érosions, il n'y a plus rien qui est fait. Et vous avez ajouté une note, hein, c'est la problématique de la gestion de l'environnement. Il faut agir en amont, parce que s'il y a des catastrophes qui arrivent, ça dépend aussi de quelle manière nous gérons notre environnement. Il faudrait que le pouvoir public se réveille et regarde beaucoup plus à la gestion de l'environnement. Simon, vous êtes toujours à Matadi dans les Bas-Congo. Bonjour.
Coordonnateur provincial de la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, à ce titre, nous voulons intervenir sur tous les problèmes relatifs à ces catastrophes naturelles. Évidemment, je vais citer quelques histoires et quelques faits qui sont restés. Mais du reste, vous savez que nous, la nouvelle société civile, nous avons toujours demandé si les budgets nationaux est toujours un budget de Kinshasa où nous tous, même en province, à promettre une contribution. Monsieur le journaliste, il vous souviendra que dans le budget de chaque année, il y a toujours une rubrique réservée aux défenses catastrophes naturelles. Si je vous dis, ce budget, je ne sais pas. Quand nous suivons les députés nationaux, ils disent, voilà, la présidence, il y a eu dépassement. Il y a un primature, il y a eu dépassement. Partout, il y a des dépassements. Mais pour ces rubriques de gestion des catastrophes naturelles, qu'est-ce qu'on en pense? La province du Bas-Congo, c'est une province très hydrique. C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'affluents qui se jettent dans le fleuve Congo. Et il y a le fleuve Congo qui prend une grande part, parce que c'est dans la province du Bas-Congo que le fleuve Congo se jette dans l'océan. Et il y a l'océan Atlantique. Donc, tous les débordements de ces cours d'eau, de ces fleuves, de ces océans, ne pouvaient pas laisser les autorités congolaises indifférentes dans la manière d'application des budgets. En Manzangou, il y a quelqu'un qui l'a dit, en Kolo, il y a eu des maisons qui sont parties. Les gens se sont dépliés de leur manière. Gouvernement national est totalement absent, sauf quelques actions sporadiques des premières heures du gouvernement provincial, qu'on faisait avec beaucoup de plaidoiries d'ailleurs. Les gens sont restés comme ça. À Lukala, il y a eu des coulements de maisons sérieuses à Kipete. À Matadi, je vous dis,
il y a eu des écoles. C'est pourquoi nous interpellons les organisations qui s'occupent aussi des enfants. Il y a eu des écoles qui ont été, les toitures, emportées, bâtiments écroulés, sous l'œil vigilant de l'autorité provinciale. Je vous dis, ces enfants-là, jusqu'aujourd'hui, étudient malgré le soleil, vraiment dans les salles sans toit. Les enfants ont marché pour revendiquer auprès de l'autorité provinciale. Parce que nous, ici, pour accueillir les musiciens, nous devenons plus spécialistes que s'occuper des enfants. Ils ont marché, ils sont partis. Le chef d'établissement a été exclu sous l'injonction des autorités par son coordinateur sous-provincial. Et vous voyez un peu tout ça, les problèmes, les écoles sont restées comme ça.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Simon. Simon, merci beaucoup. Si on peut retenir dans votre intervention, vous avez dit qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans la province de Bas-Congo. Et vous, vous avez insisté sur la part du budget de l'État loué à la gestion des catastrophes naturelles. Et vous dites chaque fois quand les députés font le débat, on évoque le fait qu'il y ait un dépassement budgétaire au niveau de la présidence, de la primature. Mais il n'y a jamais eu de dépassement budgétaire en ce qui concerne la gestion des catastrophes naturelles. Vous voulez bien que le pouvoir public s'est réveillé et pense à confier, à louer plutôt un montant conséquent à cette rubrique de gestion de catastrophes naturelles. Jules, vous êtes à Kongolo, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à toutes les familles victimes des catastrophes naturelles. Bonjour à l'invité au cabinet.
Merci. Jules, on vous écoute. Vous avez suivi les uns et les autres. Le problème est presque le même. Hein. Partout, on a un déficit, n'est-ce pas, d'intervention et de gestion des catastrophes naturelles. Les uns et les autres interpellent le pouvoir public. Mais dites-nous, si cela arrive à Kongolo, quelle est souvent la part d'intervention des populations locales quand ils font face à ces problèmes de catastrophes naturelles?
Merci de m'accorder la parole depuis la ville de Kongolo où il fait grandement chaud à présent. La catastrophe naturelle ici chez nous à Kongolo est une réalité à laquelle l'observateur a toujours assisté et cela au cours des deux saisons, c'est-à-dire au cours de la saison des pluies et aussi au cours de la saison sèche. À titre d'exemple, messieurs les journalistes, au cours de cette douzaine de jours du mois de novembre, plusieurs familles ici à Kongolo ont vu leurs maisons détruites par les eaux de la pluie et cela presse beaucoup de familles à passer la nuit à la belle étoile, monsieur le journaliste. À cela s'ajoute le coup de foudre qui ne fait que s'abattre aux innocents à chaque fois qu'il pleut. Je vous informe que 4 filles sont mortes brûlées par la foudre. Les victimes ont été surprises par la pluie en revenant du champ et en puisant de l'eau du fleuve d'où elle venait de s'approvisionner. Et aussi, je veux vous dire que pendant la saison sèche, il y a beaucoup de poussières suite à une sécheresse qui s'offre ici à Kongolo. Et cela fait engendrer beaucoup de maladies telles que la conjonctivite, la diarrhée et vice versa. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ignorants et pensent qu'il y a le mauvais sort qui est jeté par des personnes de mauvaise volonté au territoire des Congolais. D'une manière brève, monsieur le journaliste, je ne vais pas m'éterniser au micro. Je lance un SOS à l'autorité qui est en train de nous écouter pour l'instant, qu'elle soit de Kinshasa, qu'elle soit d'ici à Kongolo, de prendre le plus tôt possible la mesure parce que il y a un esprit craintif qui est en train d'être observé par la population des Congolais.
Merci.
Qui à l'égard de ce qui est en train de s'observer.
Merci beaucoup, Jules. Nous allons retenir de votre propos. Vous avez ajouté quelque chose, c'est l'ignorance. Vous pensez que beaucoup de gens pensent que les catastrophes qui arrivent, ce sont des mauvais sorts. Vous avez ajouté la dimension de l'ignorance. Simon a ajouté la dimension du budget de la part allouée aux catastrophes naturelles dans le budget de l'État. Il y a Michel qui a parlé de la gestion de l'environnement. Stéphane Decamina qui a parlé aussi de mauvais choix que nous avons, par exemple quand nous voulons choisir où habiter, cela va nous conduire à pouvoir accorder la parole à notre invité et jeter un coup d'œil en ce qui concerne la prévention des catastrophes naturelles. Je rappelle encore 081-890-6315, c'est le numéro d'appel. Martin, vous allez garder la ligne, vous êtes à Kikwit, nous allons revenir à vous.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Duc Salomon, vous avez suivi le deuxième groupe d'auditeurs. Hein. Vous avez, on a déjà compris les catastrophes, les niveaux d'intervention, ce qui s'est fait sous terrain. Mais là, il se pose un problème. 4 interventions et vous avez vu, j'ai retenu le premier qui a parlé de mauvais choix que nous faisons nous-mêmes. Quand il s'agit par exemple d'habiter un terrain, on sait que c'est un terrain marécageux, on ne peut pas y construire, mais quand même les gens s'entêtent pour aller construire. Il y a notre ami qui a parlé du problème de notre la façon dont nous gérons l'environnement, qui est aussi à la base des autres catastrophes. Les compatriotes de Matadi qui a parlé de la part du budget alloué, n'est-ce pas, la gestion des catastrophes naturelles. Et notre ami Jules qui lui a parlé de l'ignorance. Y a-t-il au niveau de toutes ces structures, et surtout chez vous, un département ou une coordination qui s'occupe de la prévention de catastrophes naturelles?
Non, il n'y a pas un département unique ou uniquement qui ne s'occupe que de la prévention. Mm-hmm. En fait, c'est le même département. C'est le même département de gestion des catastrophes qui s'occupe de beaucoup d'aspects. Mm-hmm. Et entre autres, aspect prévention et aspect intervention et aspect résilience. Parce que quand on parle de la prévention, bien sûr, bon, tout ce que nous faisons dans ces départements, c'est éduquer la population, ce sont les formations au niveau de nos volontaires pour que qu'ils soient aptes quand il faut intervenir lors d'une catastrophe. Mmh. Et là, les formations sont souvent organisées dans presque beaucoup de domaines. Bon, quelqu'un a parlé de mauvais sort. Une catastrophe n'est pas une mauvaise.
Hein, oui, mais il dit qu'il y a aussi un problème de l'ignorance au niveau de la population, oui, qui pense que c'est le mauvais sort.
Non, c'est pas un mauvais sort. Parce que quand l'État a tracé, a fait des normes urbanistiques, on dit à la population de ne pas habiter dans tel ou tel autre espace. Mmh. Et tel espace est inondable, tel espace est érosif, tel espace est ceci ou cela. Et que bon, la population s'entête, et compte tenu de la démographie qui n'est fait qu'augmenter, bien sûr, bon, il n'y a pas de mesure d'encadrement. Mmh. La population s'arrange pour habiter dans des sites qui sont interdits. Hein, j'ai parlé des sites inondables, des sites érosifs. Mmh. Ouais. Alors, quand une catastrophe arrive, quand l'érosion arrive et que bon, vous avez érigé votre maison sur ce site-là, soyez-en certain que bon, vous serez parti par les érosions. Quand il s'agit d'un site inondable et qu'on vous interdit d'ériger votre maison et qu'il y a des fortes pluies, le lit déborde. Donc, soyez certains que vous serez emporté par les eaux. Donc, c'est des cas pareils qui arrivent souvent et que, bon, la population ne se rend pas compte. Mais c'est aussi, ça peut être aussi le fait que, bon, il y a une forte pluie, par exemple, et que, bon, la population n'est pas sur un site inondable, mais ça déborde. Mmh. Si je vois le cas de ce qui s'est passé avec l'ouragan, Sandy.
Sandy aux États-Unis d'Amérique.
À New York, notamment. Mm-hmm. Donc, quand il circule dans les rues de New York, ce n'est pas des rues inondables. Hein, mais il s'est fait que, bon, il y a de fortes pluies et la population est inondée. Ça peut être comme ça. Mais là où je peux aussi m'atteler, c'est par rapport au budget alloué
à la gestion d'intervention. Voilà.
Je dois rappeler à la population qu'il y a, nous avons donné nos interventions pour qu'on ait dans ce pays un plan d'organisation des secours. Mm-hmm. C'est un plan qui n'a jamais existé. Bien sûr, ça existe ailleurs. Je prends l'exemple de Togo. Je crois que si je ne m'abuse pas, c'est de la Côte d'Ivoire. Mais ici, chez nous, ce plan-là a manqué. Et nous avons les autorités du pays, notamment le ministère des Affaires sociales, et nous-mêmes, nous avons pris l'option à ce que nous puissions avoir désormais un plan d'organisation des secours national. Et là, c'est un plan, quand nous allons le mettre à l'œuvre, on ne saura pas s'attendre à ce que, quand il y a catastrophe naturelle, ou bien quand il y a catastrophe, qui doit intervenir? Donc c'est un plan qui va tracer bien sûr, la ligne de conduite sur les interventions en cas de catastrophe. Donc, chaque entité aura sa part et chaque entité saura qu'est-ce qu'elle doit faire en cas de catastrophe. C'est un plan qui est en train d'être amendé. Et il faut qu'il passe au niveau du gouvernement, au Conseil des ministres.
Oui.
Et après le Conseil des ministres, il faut que ça soit envoyé au niveau du Parlement.
Au niveau du Parlement.
Et le Parlement, et puis, bon, jusqu'à la signature du chef de l'État. Donc, j'espère qu'en 2013, c'est fort possible que nous puissions avoir ces plans d'organisation des secours national et qui pourra déterminer les interventions des uns et des autres.
Mais quand il s'agit de l'intervention comme prévention, y a-t-il au niveau de votre structure, par exemple, une identification des périodes et des sites à problème pour dire, par exemple, attention, nous sommes en tel mois, vous qui habitez telle province, tel endroit, vous pouvez être exposé à tel genre de catastrophe. Arrive-t-il de faire ces études et de pouvoir aussi proposer en amont?
Oui, nous avons on avait fait une étude sur la cartographie des zones à risque dans ce pays. Si bien que nous savons, bon, dans telle ou telle autre province, quelle est la catastrophe qui revient de manière récurrente,
voilà,
chaque année ou à telle période. Ça, nous avons. Nous partageons cela avec tous les intervenants dans la gestion des catastrophes. Et bien sûr, comme je vous dis, nous sommes auxiliaires du pouvoir public. L'État est là, et puis il y a nous, et il y en a d'autres. Mais quand il s'agit de notre part, nous faisons ce qui peut être fait. C'est-à-dire, il y a des alertes précoces que nous donnons à la population. Il y a des endroits où nous disons, bon, par exemple, il ne faut pas habiter dans tel ou tel autre coin. Nous faisons aussi la diffusion par rapport à toutes ces alertes-là. Bon, bien sûr, nous ne faisons que parler. Et nous faisons participer la population. Quand il s'agit, par exemple, de faire des études de vulnérabilité, des capacités, nous faisons intervenir et les autorités de la place et la population locale. Et la population sait pertinemment bien où il ne faut pas mettre la tête et où qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions éviter telle ou telle autre catastrophe quand elle survient. Hélas, quand ça arrive. Et parfois, bon, comme je vous ai dit, la catastrophe, c'est un événement douloureux, inattendu, qui vient à l'improviste.
Et vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le plan d'organisation des secours qu'on peut avoir prochainement. Pensez-vous que le plan à lui seul suffit pour pouvoir résoudre le problème? Parce qu'il y a déjà, vous avez suivi sur les budgets de l'État, c'est qu'il y a un problème qui se pose au niveau de fonds nécessaires. Mais est-ce que le plan à lui seul va-t-il suffire ou faudrait-il aujourd'hui beaucoup de sensibilisation auprès du pouvoir public pour que le plan puisse s'accompagner de la volonté politique de disponibiliser les fonds nécessaires pour lui permettre d'être mis en vigueur?
Heureusement, vous l'avez soulevé. Et le plan, ça reste, ce sont des réflexions qu'on met sur le papier. Mais il faudrait maintenant qu'il y ait la volonté politique. Le plan, ce n'est pas le plan de la Croix-Rouge. Ce n'est pas le plan de telle ou telle autre organisation humanitaire. Ça sera le plan du pouvoir public. Et quand il s'agit du plan et que le président de la République aura mis sa signature pour que ça soit un plan national, et bien sûr, lui-même ou le pouvoir public saura comment il faut mettre le paquet pour que ce plan soit d'application. Sinon, ça sera à lettre morte et toutes nos réflexions,
non, ça servira à rien.
À rien du tout. C'est là où nous faisons, nous disons, bien sûr, nous avons fait ce que nous devons faire et que, nous sommes, bien sûr, comme je vous ai dit, en étroite collaboration avec certains ministères qui nous ont, qui ont travaillé avec nous. Mais, nous continuons à insister. Il faut de la volonté politique pour mettre le paquet, pour que ce plan d'organisation des secours au niveau national soit d'application et bien sûr les intervenants dans la gestion des catastrophes, chacun aura un morceau à prendre, bien sûr.
Nous allons écouter Martin qui est à Kikwit, Étienne est à Butembo et Dieudonné à Lubumbashi dans la province du Katanga. On pourra revenir à vous et à aussi cette question par rapport à vos interventions pour que nous puissions savoir concrètement quand la Croix-Rouge intervient par exemple sur terrain, en quoi consistent ces interventions. Vous avez dit, si par exemple il y a d'autres structures qui interviennent aussi, il ne faudrait pas faire la même chose, mais on devrait aussi savoir concrètement au cas où on est dans une catastrophe et il n'y a que la Croix-Rouge seule, qu'est-ce qu'elle fait. C'est la question qui va suivre hein, après qu'on ait écouter encore les auditeurs qui sont sur les antennes, les trois autres 081 890 63 15, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée à la gestion des catastrophes. Nous sommes partis de ces inondations dans les camps, le village des pêcheurs à Tagba en province orientale, mais il y a aussi Djo Igbi dans la province, dans les territoires des Djougou en province orientale, plus de 100 maisons qui ont été emportées. Que pensez-vous de la gestion des catastrophes naturelles dans votre milieu? Et notre invité, c'est M. Doux Salomo, qui est secrétaire général de la Croix-Rouge du Congo.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Martin, vous êtes à Kikwit, bonjour. Martin, bonjour. Martin est distrait sur sa ligne apparemment. Soit on l'a perdu totalement. Nous allons à Butembo. Étienne, bonjour. Étienne, vous êtes à Butembo, bonjour. Voilà, Martin, Étienne perdu. Je crois peut-être Dieudonné de Lubumbashi est avec nous. Bonjour Dieudonné.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et vous savez celui, comment nous cheminons dans cette émission. Il y a des problèmes posés par les auditeurs, hein, en ce qui concerne cette problématique de la gestion des catastrophes naturelles. Mais nous dégageons aussi les pistes et solutions pour savoir, on doit quand même évoluer par rapport à ce que nous connaissons comme problèmes et difficultés. Qu'est-ce qui doit être fait pour que nous puissions parvenir à faire face à ces catastrophes naturelles une fois, peut-être, si cela arrive dans notre milieu. Quel est votre point de vue?
Oui, bon, je dis d'abord bonjour à l'invité. Bonjour aussi à vous-même. Mon intervention se base sur notre problème sur l'avenue Biaï au quartier Kaloubwe. Nous avons une rivière qui porte justement le nom de Kaloubwe, qui pendant des fortes pluies, elle déborde de son lit. Quand elle déborde, c'est toute la route, tout le passage qui est bloqué, donc les véhicules ne savent plus passer. Mais le problème qui se pose à ce niveau, c'est le manque de curage de ces rivières. Donc les autorités n'ont jamais pensé à faire le curage de cette rivière. Et nous sommes, il faut ainsi au danger. Surtout les maisons qui longent cette rivière sont vraiment exposées au danger d'une catastrophe un jour, peut-être une démolition de leur maison. Et un autre problème. Et le manque de canalisation de notre avenue Biaï. Il y a tout récemment, on a confié ce travail-là de canalisation à une société qui évolue à pas de tortue. Et on est en train de se demander pourquoi les autorités ne peuvent pas retirer ce contrat-là à cette société et confier par exemple aux Chinois. Nous savons que les Chinois ils sont très rapides en cette matière. Nous avons vu des exemples. Ils ont commencé dernièrement certaines canalisations sur certaines avenues. Et ces travaux ont déjà pris fin. Mais notre avenue Biaï, en tout cas, nous sommes vraiment abandonnés à nous-mêmes. La société là a présentement marqué le pas. Donc elle a carrément arrêté les travaux. Alors je ne sais pas si les autorités peuvent penser un peu à résoudre ce problème. Donc c'est pratiquement un SOS que nous lançons à nos autorités de la place, afin qu'ils puissent avoir un œil regardant sur ce problème-là, afin que on puisse résoudre un peu ce problème-là. Parce que sinon, quand il y a des pluies abondantes, les eaux débordent, et des fois ça termine dans nos parcelles, alors nous ne savons pas quoi faire exactement.
Merci sinon, beaucoup, Dieudonné. Voilà. Préoccupation. Merci, Dieudonné. Vous êtes sur l'avenue Biaï, quartier Kaloubwe à Lubumbashi, la petite rivière qui est là, déborde de temps en temps. Il y a un problème d'écurage, mais il y a aussi ces problèmes de caniveaux qui se posent. Et voilà ces messages des SOS place auprès des autorités qui vous écoutent à Lubumbashi, qui peuvent venir vous rendre visite, voir comment mettre fin à cette situation. Cela arrive aussi à Kinshasa, il y a des quartiers, des avenues qui longent les différentes rivières de la ville-province de Kinshasa, où il y a des problèmes sérieux quand il pleut, les gens sont dans l'eau, mais apparemment la situation demeure ainsi régulièrement. À chaque pluie, ils sont dans l'eau, ils reviennent, et puis, bon, c'est devenu de cette manière permanente, mais vous avez besoin quand même qu'il y ait des solutions. Merci beaucoup. Michel, vous êtes à Matadi, on était déjà avec vous tout à l'heure. Michel, bonjour.
Oui, bonjour papa.
Non, on vous écoute.
Merci. Je voulais ajouter quelque chose parce que j'ai suivi les coordonnateurs de la société civile du Bas-Congo qui est intervenu. Et moi, je crois que même la société civile a un rôle à jouer parce que la société civile est la voix de la population. Aujourd'hui, ce que nous vivons de ces catastrophes, peut-être sont des choses que nos grands-pères ont fait. Parce que chaque catastrophe naturelle a une cause. Et aujourd'hui, à Matadi, venez voir comment les gens sont en train de construire. J'ai passé quelque part, j'ai vu une grande pierre. Et au-dessus, les gens sont en train de construire des maisons. Donc, dès que cette pierre se détache, la population en dessous là-bas subira des conséquences. On construit mal. Si vous venez dans le camp de l'Onatra, l'Onatra a bien aménagé son camp. Mais les gens sont en train de construire abusivement. Il n'y a même pas de place où les enfants peuvent jouer. Et au fil de la société civile quand même.
Voilà. Merci beaucoup Michel, c'est important. Vous pensez, oui, pensez Michel, vous pensez qu'il serait mieux aujourd'hui pour la société civile d'être engagé vraiment dans une campagne de plaidoyer, mais aussi de sensibilisation. C'est cette grosse pierre à l'entrée des Matadi où les gens sont en train d'ériger de construction dessus, c'est très dangereux. Et pourtant, vous dites que cela s'est fait au vu et au su de la société civile. Nous allons vous accorder la parole directement à Doux Salomon. Vous avez suivi les uns et les autres, mais avant peut-être de pouvoir parler de l'implication des populations locales dans ces problèmes de catastrophes et aussi de la société civile comme a évoqué notre ami de Matadi. Revenons d'abord par rapport à vos interventions sur terrain. S'il arrive qu'il y a une catastrophe, une inondation, ça peut être un incendie, ça peut être un éboulement ou un glissement de terrain qui est arrivé dans un milieu où il n'y a pas d'autres partenaires que vous, en quoi consistent les interventions de la Croix-Rouge?
D'accord. Comme je vous ai dit, nous préparons nos volontaires justement pour ces interventions-là. C'est pourquoi ces volontaires sont disséminés à travers la République, peut-être dans les coins ou les recoins de ce pays. Quand il y a par exemple une catastrophe, les volontaires descendent sur le terrain. Et bien sûr, ils ne descendent pas directement comme ça. Il faut que qu'on confirme que c'est une catastrophe. Il faut que l'État ou l'autorité locale confirme que c'est une catastrophe. Il y a un événement. Dans un premier temps, on appelle toujours la Croix-Rouge où vous en êtes. Et puis bon, c'est d'abord la préparation pour intervenir, parce que vous ne pouvez pas intervenir sans être préparé. Il faut réunir le matériel d'intervention. Bon, souvent, nous avons notre équipement et il y a le responsable qui s'occupe des gestions des catastrophes qui réunit les volontaires et descend sur le terrain. Mais je vais faire une différence. Il y a catastrophe et catastrophe selon l'ampleur. Quand il s'agit des petites catastrophes, par exemple, le brûlé incendie, comme vous avez cité ici, bien sûr, s'il y a des pertes en vie humaine, bon, nous les évacuons. S'il y a, il y a pas de pertes en vie humaine et que bon, les populations, cette population doit rester loin de l'incendie ou bien des cas qui survient, on évacue jusqu'à l'abri. Et là, s'il faut donner par exemple un appui par rapport à kit alimentaire ou bien kit hygiénique, là nous avons notre stock prépositionné et nous pouvons souvenir. Mais quand il s'agit par exemple d'une grande catastrophe qui dépasse la capacité de notre intervention, nous lançons l'appel à notre partenaire du mouvement qui est la Fédération internationale de la des sociétés de la Croix-Rouge du Croissant-Rouge. Et habituellement, vous voyez, il y a une croix et un croissant. C'est le symbole de la Fédération. Et la Fédération n'a le mandat que d'intervenir dans le catastrophe naturelle. Alors, quand nous lançons appel à cette composante du mouvement, et bien sûr, les mécanismes se déclenchent, il y a ce qu'on appelle, on fait le DREF. DREF, c'est le Disaster Response Emergency Fund. C'est les fonds d'urgence pour la réponse des catastrophes.
Mm-hmm.
Et bien sûr, dans moins de 48 heures ou 72 heures, nous pouvons avoir ces fonds-là pour que nous puissions être efficaces sur le terrain. Donc c'est un peu ça. La préparation, bien sûr, les volontaires sont là, on les forme pour ça, mais quand il s'agit de faire un appui, ça dépend de l'ampleur des catastrophes. Si c'est petit, bien sûr, nous pouvons nous mobiliser nous-mêmes ici avec notre stock d'urgence et l'État, bien sûr, donne aussi certains appuis quand il s'agit de sur place. Mais quand il s'agit d'une grande catastrophe, comme je l'ai dit, qui dépasse notre capacité d'intervention, mm-hmm. et là nous faisons appel à notre composante du mouvement qui est la fédération.
Et par rapport à l'implication de populations locales, quand vous êtes sur un terrain d'intervention, quelle est leur part des responsabilités?
Leur part des responsabilités, bien sûr. Vous savez, quand le fondateur même de la Croix-Rouge, mais c'est Henri Dunant,
mm-hmm.
avant même que la Croix-Rouge soit Croix-Rouge telle qu'elle est aujourd'hui, mais il était seul. Mais il n'était pas seul comme individu, il était avec la population qui l'entourait. Donc c'est avec la population locale qui était sur le champ, c'est avec cette population qu'il a fait les aides dans son intervention. C'est ce que nous faisons aussi. C'est-à-dire quand nous intervenons, bien sûr, il y a les volontaires qui sont formés, mais avec, nous pouvons associer la population pour que la catastrophe soit atténuée.
Mm-hmm.
Donc, on n'écarte pas l'intervention de la population à côté des volontaires de la Croix-Rouge.
Voilà. Cela veut dire que ils interviennent, mais il faudrait aussi peut-être les protéger.
C'est nous qui les canalisons. Parce qu'on n'intervient pas pour le plaisir d'intervenir. Et quand il faut que la population intervienne, nous associons. Mais quand il s'agit de l'intervention technique, et là, ce sont les éléments de la Croix-Rouge parce qu'ils ont suivi une formation par rapport à ça.
Mmh. Ouais. Mais aujourd'hui, y a-t-il le moyen d'évaluer à travers le pays, parce qu'il y a ces amis qui se sont plaints, par exemple à Demba, qui ne voient pas assez des éléments. C'est vrai qu'on verra toujours dans un village quelque part toujours au moins quelqu'un qui porte la signe. Mais est-ce que vous avez le niveau d'évaluation des besoins pour savoir que on sent par exemple que les volontaires diminuent, il y a des endroits où on a besoin beaucoup plus de volontaires, ou bien c'est spontané, quelqu'un qui s'est dit dans le quartier, voilà, je voudrais devenir volontaire, il va en formation. Y a-t-il aussi des activités de planification à votre niveau qui permettent d'en avoir en fonction de besoins potentiels qui peuvent se présenter dans un milieu?
Tout à fait. Comme je vous dis, l'activité ou les activités de prévention sont des activités d'une importance très capitale à la Croix-Rouge.
Mm-hmm.
Parce qu'il ne suffit pas seulement d'intervenir quand il y a des dégâts, mais il faut prévoir que ces dégâts n'arrivent pas. Hein? Mais quand ça arrive, bien sûr, on intervient. Mais si on a prévu et que ça n'arrive pas, ok, et la population et nous allons nous frotter les mains. Mais nous avons l'appui, bien sûr, du Comité international de la Croix-Rouge par rapport à des formations de volontaires. Ce qu'on appelle le premier secours à base communautaire. Nous formons des milliers de volontaires tous les jours, presque dans toutes les 11 provinces du pays. Et comme vous venez de l'évoquer, et on ne les forme pas pour le plaisir de les former. On les forme, bien sûr, tout en se disant, s'il survient une catastrophe,
mm-hmm.
ou bien un problème, ces éléments peuvent intervenir. Et bien sûr, on intensifie souvent des formations selon les événements. Par exemple, lorsqu'il y a eu les élections l'année mm-hmm. passée.
Oui.
Oui. Nous avions fait le plan de contingence pour intervenir pendant les élections.
Et s'il y a bien sûr des
débordements, s'il y a problème. Mm-hmm. On a fait ce plan de contingence-là et ce plan de contingence a été mis en œuvre par nous-mêmes. Et si bien que, avant ça, on a formé des volontaires, surtout dans des provinces où nous savions que ce sont des provinces, disons, étincelles. Je prends par exemple le Duc Kassai, je prends Aloja, je prends ici à Kinshasa, à Lubumbashi. Bon, il y a des provinces comme ça qu'on a ciblées et on a formé des volontaires pour subvenir à tous ces ces événements qui pourraient
arriver si jamais ça arrive. Mais il y a ces problèmes de recrutement, on peut dire, de volontaires. Il y a un moment où on voyait la Croix-Rouge était un peu plus actif aussi au niveau des universités, au niveau de la jeunesse, parce qu'on sent que le mouvement ne semble pas intéresser les jeunes de plus en plus. Les gens pensent que les Croix-Rouge ce sont des vieux papas. Alors tout ça, y a-t-il un plan aujourd'hui qui s'adresse vers la jeunesse et surtout au niveau des universités, par exemple, où on peut avoir beaucoup de volontaires engagés et formés aussi?
Oui, Vous avez raison. Moi qui vous parle, je suis le fruit de ce que vous venez de dire là. Moi, j'ai adhéré à la Croix-Rouge à l'université. Et j'ai voulu aujourd'hui, j'ai un travail à la Croix-Rouge. C'est que nous avons des brigades universitaires. Si vous avez remarqué qu'il y a peut-être une baisse des activités de ces brigades, nous avons pris conscience. Nous avons pris conscience et dans notre plan d'action 2013, nous allons intensifier les activités dans les brigades universitaires parce que nous savons que ce sont ces brigades universitaires qui regorgent la pépinière des personnes qui vont diriger la Croix-Rouge demain après-demain. Et on ne s'arrête toujours pas aux brigades universitaires ou bien aux universités. On est descendu un peu plus bas, jusqu'au niveau de l'école primaire, pour que les enfants, au niveau même de l'école primaire, aient déjà une idée
de
la Croix-Rouge. Parce que comme vous l'avez dit, c'est tout le monde qui le remarque. Quand on parle de la Croix-Rouge, on voit que ce sont les ramasseurs de cadavres. Alors que nous avions, je me souviens, il y a quelques années, on avait lancé un slogan « Chaque famille, un secouriste ». C'est-à-dire, ce serait même idéal que dans chaque famille, qu'il y ait quelqu'un pour, en cas de besoin, la personne intervient avant que les autres éléments n'arrivent. Vous pouvez sauver une vie dans votre maison avant que les choses plus n'arrivent.
Voilà, merci beaucoup Monsieur Duxé Salomo d'avoir accepté notre invitation et partagé ces sujets avec les auditeurs des Radio Capi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Croix-Rouge du Congo. On se retrouve demain mardi pour un autre échange. Le projet de loi portant modification du code du travail est en discussion au Sénat, déposé par le ministre du Travail. Ce texte apporte quelques modifications, notamment la fixation de la durée du travail à 8 heures. La modification du code du travail peut-il, selon vous, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs congolais? On se retrouve autour de ce sujet demain à 11h03, heure de Kinshasa. Au revoir.